Voilà, merci. Bien, c'est un papy heureux là, hein, qui est là ce matin. Voilà, et merci de prier pour les parents, hein, pour Aurélie, sa croissance, pour Nicolas, sa naissance. On voit qu'il est très attentif, c'est vraiment un papa très attentif, très, oh là là, il prend soin de cette petite. Et prions vraiment pour qu'il se passe à travers cette œuvre d'une naissance, c'est tellement merveilleux que le Saint-Esprit le touche. D'accord ? Merci de vous souvenir de Nicolas. D'accord ? Nicolas. Voilà. Alors, j'avais un peu de mal à me concentrer pour ce matin, mais vous comprenez, hein, c'est un pourquoi. J'ai un peu plus de combat que d'habitude. Mais voilà, quand même, j'avais une parole. Hein, vous n'êtes pas sans remarquer que de plus en plus, dans les médias, et partout, dans les émissions médicales particulièrement, on nous dit sans cesse qu'il faut bouger. Bouger. Hein, il nous faut faire des exercices. Pour éviter une crise cardiaque, pour éviter un AVC. Alors moi j'essaie, je vais à la piscine 2 fois par semaine, je fais un peu de vélo, je fais de la marche, voilà. Voilà. Mais la Bible, on oublie quelquefois que la Bible, dans la Bible, nous voyons le souci de Dieu aussi, qu'on soit en bonne forme spirituelle. Et je vous pose tout de suite la question, comment vous sentez-vous spirituellement en ce moment ? Êtes-vous en bonne forme ? En bonne forme spirituelle. Voilà, c'est un combat. Tu as raison, Odette. Absolument. Voilà. Tout à fait. Alors, on va lire un passage qui parle d'exercice. Ouais. On va lire 1 Timothée 4, versets 7 à 9. Voilà. Alors, de la part du Seigneur, ensemble, exerçons-nous. À quoi ? À quoi ? Voilà. 1 Timothée 4, versets 7 à 9. Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété. Annette, elle m'a dit tout de suite, oh, si tu parles de piété, explique ce que c'est pas tellement un mot très... Bon, alors je vais expliquer après. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Je mets ça en relief parce que à ce moment-là, les gens bougeaient beaucoup, hein, ils marchaient beaucoup. On marche beaucoup moins, on est beaucoup plus sédentaire. Alors je dirais, l'exercice corporel est quand même utile, hein, attention. Hein. Mais dans une version, tout à l'heure, vous allez voir, dans une autre version, c'est plus équilibré. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçu. La piété, qu'est-ce que c'est la piété ? Le mot grec, eusébia, contient la notion de respect, révérence et aussi de fidélité. Et il est dérivé de 2 autres mots où il y a aussi la notion d'être bien, heureux et aussi de bien agir. C'est très concret, hein. Piété, c'est très concret. Notez bien ça. En latin, il y a le mot pietas qui veut dire vénération faite d'affection et de respect envers Dieu. Alors je vais lire maintenant ce passage dans une version qu'on aime beaucoup avec Annette, c'est la version Parole vivante, Alfred Kuhn. Et c'est dit ainsi. Mais ferme ton esprit aux mythes impies et sans valeur. Exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Bien, ouais. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui correspond à ta foi. L'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. Vous voyez, c'est un peu plus équilibré. Elle a son utilité. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances, En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses de la vie présente et celles pour la vie future. C'est là une parole certaine et entièrement digne de foi qui mérite d'être acceptée sans réserve par tous les hommes. Alors retenez simplement ces deux lignes. Exerce-toi à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui correspond à ta foi. Voilà ce que c'est que la piété. Alors, on va énumérer les avantages de la piété, de l'attachement à Dieu. Je crois que c'est le mot attachement à Dieu qui est le plus proche de piété, hein, qui traduit le mieux. 1. Dans ce verset, on dit « elle est utile à tout ». Alors, ça vaut la peine quand même de faire ces exercices, puisqu'elle est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente. On va en parler dans un instant. Elle a la promesse de la vie à venir. La résurrection avec Jésus. Ça, c'est ce qu'on trouve dans notre verset de référence. Mais ailleurs, il est dit aussi, par exemple dans 1 Timothée 6, qu'elle est une source de gain. Pas de gain, mais de richesse intérieure, surtout. Avec le contentement d'esprit, est-il précisé. Elle nous ouvre aux réalités spirituelles et aux projets de Dieu. C'est intéressant parce que dans Luc, par exemple, on voit que Siméon, il est dit que Siméon était pieux et que l'Esprit Saint reposait sur lui. Dans Acte 2, tous ces gens qui étaient rassemblés là, qui allaient recevoir l'Esprit Saint, il est dit dans la Bible que c'était tous des hommes pieux qui étaient rassemblés. Corneille, ce Romain païen, qui a eu la visite de Pierre pour entendre l'Évangile, il est dit que c'était un homme pieux. Vous voyez, la vraie piété, elle attire la grâce, la faveur de Dieu. Si on veut vivre un réveil dans notre église et dans notre région, soyons des hommes pieux, des femmes pieuses. Sinon, nous risquons même peut-être de nous opposer à ce que veut faire le Saint-Esprit. L'homme pieux des psaumes est l'objet de la bénédiction, de la protection de Dieu. C'est David qui dit dans le psaume 4, « L'Éternel s'est choisi un homme pieux ». Au psaume 32, « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable ». Et il y a cette magnifique parole de Pierre, « Vous pouvez être certain que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux, ceux qui lui sont attachés ». Oh, quelle promesse! Ça vaut le coup de s'exercer, hein, à la piété. Alors exerçons-nous. D'autant plus que l'apôtre Pierre dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc pas de défaitisme, pas de « je n'y arrive pas, la vraie piété, c'est pas pour moi, c'est pour certains, un peu une élite ». Non. D'accord ? Je voudrais juste citer ce matin deux pistes dans cet exercice de la piété. On va dire l'attachement avec Dieu, à Dieu. Deux pistes qui peuvent être des objectifs pour ces semaines qui viennent. Parfois, j'ai l'impression de me répéter, j'ai certainement déjà parlé de ça, mais voilà, ça revient. Mais Robert peut-être en a parlé aussi. Mais la première piste que je trouve fondamentale, c'est trouver du plaisir. Amen. Trouver du plaisir. De la joie dans la parole de Dieu. Alors ça nous amène au psaume premier. Irrémédiablement, psaume premier, juste les trois premiers versets. Voilà. On a même des lecteurs, c'est bien. Voilà.
Qui ne t'arrête pas sur les voies des pécheurs.
Ouais.
Et qui ne t'assied pas en compagnie des moqueurs,
ouais.
Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, comme Moïse disait,
oui.
Voilà. Et qui le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté. planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et donne le feuillage, ne te flétrit point, tout ce qui séduirait.
Voilà, très bien, merci.
Seigneur, je peux
amen.
Ouais. Ouais. Seigneur est vivant parce que c'est pas évident de vivre ma vie.
Ouais.
Et chaque jour et chaque instant, il est là près de moi qui me réconforte. J'ai pas honte de dire, pendant 4 ans, j'ai eu une dépression.
Ouais.
J'ai passé au psychiatre, j'ai passé au psychologue. Mais c'est grâce à Dieu que je suis sous mes pieds.
Amen.
Et je remercie chaque jour et chaque nuit.
Amen.
C'est bien fait.
Amen. Je vais vous dire, Odette, c'est un miracle.
Oui. On était allé faire une visite dans sa famille il y a quelques jours. Et ses filles, lui, témoignent qu'elle ne lisait jamais. Elle n'écrivait
jamais. Jamais, je n'ai rien
lu. Et maintenant, elle lit sans arrêt. Elle lit sans arrêt la Bible et d'autres livres. Et elle écrit sans arrêt. Elle est pareille. Les cahiers remplis.
Bravo. Voilà. Alors, quelle promesse magnifique. La parole de Dieu, c'est pas un devoir religieux, mais ça peut être un plaisir. Je peux avoir des moments délicieux avec la parole de Dieu. Voilà, ça, quelle promesse magnifique. Quelquefois, on rame, on a dit, oh là là, il faut lire la Bible, il faut... Non, non, Dieu nous dit, tu vas trouver des... Tu vas trouver du plaisir à lire la Bible. D'accord ? On y croit, tout à l'heure, on va prier. Et on va demander ça au Seigneur. On va demander, tous, dans cette église, d'avoir du plaisir à lire, de la joie à lire la parole de Dieu. D'accord ? Tout à l'heure, on va le prier. Hein. Et voyez, dans ces versets, il y a vraiment plein de choses, plein de remarques que je voudrais vous faire. D'abord, je remarque une progression. On a une marge, on a tous une marge de progression. Hein. Oh là là, un peu comme le sportif qui commence à s'entraîner et qui se fixe des objectifs. La marge de progression, c'est d'arriver à méditer la parole de Dieu jour et nuit. On n'y est pas encore. Peut-être certains y sont, mais ils ne diront pas par modestie. Mais jour et nuit. Moi, je me dis déjà, si je peux la méditer un peu plus dans la journée, ce que j'ai reçu le matin, de le mastiquer, voilà, de le... Voilà. Déjà, ça serait un progrès. Voilà. Voilà. On a une marge de progression. Pour trouver du plaisir dans la parole de Dieu, il faut passer du temps, chers amis. Il faut passer du temps. Il faut essayer de passer du temps chaque jour. Essayer. Alors, si on a un peu de mal, chaque jour, on a tous nos combats. Et il y en a parfois certains qui sont très occupés. On peut essayer de rajouter un temps dans la semaine. Une heure. Où là, vraiment, on va prendre le temps. Vous voyez, si c'est un peu la bagarre tous les jours, essayez de rajouter un temps dans la semaine. Une heure. Où... Libérons du temps. Allons, belles études bibliques de Robert, le mardi. Mais on peut aussi aller 24 heures dans un monastère. Moi, quelquefois, je prends... Voilà, mais c'est vrai que moi, je l'ai fait aussi avant ma retraite, hein. Mais on peut essayer de trouver 24 heures, aller à Bouvines, au Mont des Cats. Et souvent, j'étais renouvelé dans la parole de Dieu en prenant comme ça 24, 36, 48 heures pour passer du temps. D'accord ? Ouais. Sans se décourager si un jour on reçoit rien. D'accord ? Ça, il n'y a pas de catastrophisme à ce niveau-là. Ah, il y a un jour, j'ai... Quand je dis qu'on est appelé à vivre des moments délicieux, il ne faut pas se décourager parce qu'il y a un jour, on n'a rien reçu. Et parfois, le lendemain non plus. Mais soyons persévérants. Soyons persévérants. Pour être attentif, pour libérer du temps, il faut être attentif aux voleurs de notre temps. Bien sûr. Il faut être attentif aux voleurs de notre temps. Et le premier verset... nous invite à y prendre garde. Heureux, heureux, celui qui ne s'assied pas. S'asseoir, quand on s'assied, c'est pour un moment. Et donc, le Seigneur nous pose la question, avec qui ou avec quoi nous passons le plus de notre temps libre ? Avec qui ou avec quoi nous passons la plupart de notre temps libre. Je peux perdre mon temps en des discussions vaines, et là la parole de Dieu nous avertit, qui n'avancent, qui ne font rien avancer. Je peux perdre du temps en m'asseyant, ça ne veut pas dire que je coupe le contact avec tous les moqueurs, mais en m'asseyant, ou en prenant beaucoup de temps avec certaines personnes qui vont faire que je ne vais pas sortir indemne de ce moment. Parfois des gens très très négatifs. Je me souviens que sur mon lieu de travail, à un moment, le Saint-Esprit me disait « Jean-Luc, allez, coupe, arrête un peu de passer du temps avec un tel ou une telle, parce que sans arrêt, c'est la négativité. Et tu vas être entraîné dans cette négativité. » Voilà. Avec qui, mais avec quoi aussi? Et avec quoi? Ça peut être la télé, la tablette, l'ordinateur, le portable, qui peuvent nous voler notre temps. Et toute autre chose, la radio ou certaines lectures, je ne sais. Annette n'a pas Internet, donc ça va, elle est sauvée. Voilà. J'ai dit Annette, Odette. Odette. Huguette non plus, donc ça va. Voilà. Voilà. Pour trouver du plaisir dans la parole de Dieu, il me faut aussi capter toute la grâce qu'il y a dans cette parole. Et on le voit dans ces trois versets. Dans ces trois versets, il y a un avertissement. Donc avec qui, avec quoi nous passons du temps? Il y a un commandement, voilà, allez, heureux, celui qui trouve, qui médite la parole, voilà, ça c'est la recommandation, on va dire. Mais il y a trois promesses, ça montre toute la grâce de Dieu. Un avertissement, une recommandation, trois promesses. Oh, c'est la grâce de Dieu. La première promesse, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est la promesse d'une solidité, d'une stabilité, d'une résistance, d'une capacité de résister à la tempête. Pensez à la maison sur le roc, hein, bâtie sur le roc. Voilà, celui qui trouve du plaisir dans la parole de Dieu s'affermit, devient plus résistant face aux tempêtes, aux courants, aux vents contraires. Si je suis fondé sur l'amour de Dieu et l'amour de sa parole, je trouverai la force de résister. L'amour triomphe de tout. Il est plus fort que la mort. Deuxième promesse. Il est comme un arbre qui porte son fruit en sa saison. Notez bien, en sa saison. C'est la promesse d'un fruit visible, mais en sa saison. Nous devons accepter, je l'ai souvent dit, mais qu'il y a des saisons dans nos vies. Il y a des hivers, il y a des printemps, il y a des temps de désert où il semble que rien ne se passe, rien de spectaculaire. C'est des temps où on est en préparation pour d'autres temps à venir. Mais l'apôtre Paul dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Troisième promesse. Et dont le feuillage ne se flétrit point. S'il n'y a pas une visibilité en tout temps, il n'y en a pas moins la vie. Vous êtes d'accord? Un arbre, on ne voit pas le fruit, mais il y a la vie. On voit les feuilles, on voit la vie. Donc ce n'est pas une grande visibilité, où on ne voit pas les fruits, mais il y a la vie. Et Jérémie, dans un chapitre, au chapitre 17, il dit un peu la même chose. Il dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. » Quelle promesse magnifique, ce feuillage verdoyant pour nos temps de crise, ces temps de réchauffement de la planète, avec ses conséquences. Voilà, le Seigneur nous parle là d'une vie permanente. Et je crois que cette vie permanente, c'est le rayonnement du chrétien. Enfin, c'est ce que moi, le Saint-Esprit m'a dit maintenant. Il peut y avoir plusieurs interprétations, hein. Mais moi, je le reçois comme ça. C'est le rayonnement du chrétien qui continue d'aimer envers et contre tout. Voilà. Je passe par le temps d'hiver, mais j'aime, je continue d'aimer, je continue de faire confiance. Je continue d'aimer, même mon ennemi, je l'aime. Même si je ne m'assieds pas à côté, parce que s'il peut... Ouais. Et c'est, je crois que Dieu m'a montré que ce n'était pas un hasard l'ordre de ses promesses. La solidité, le fruit en sa saison, le rayonnement, la sève avant et le rayonnement après. Comme si le Seigneur voulait nous dire que la sève est plus importante que tout. Le rayonnement, plus important encore que le fruit visible. Le rayonnement. Et ce rayonnement, c'est cet amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Quand on se place envers et contre tout sur le terrain de l'amour et de la confiance. C'est ça la réussite. Dieu nous a parlé ces dernières années où quelquefois on était découragés. Il s'est servi de notre fille qui nous a écrit « Vous avez réussi » alors que 2-3 jours avant, Annette me disait « Oh, on n'a pas tellement réussi ». Et on était repris. Saint-Esprit nous disait « Mais c'est quoi réussir pour vous ?» Attention à ce que le monde ne nous influence pas dans notre vision de la réussite. Alors pour terminer ce point, je l'ai dit, j'ai dit merci à Odette parce qu'elle est un exemple, son amour de la parole. J'ai envie de dire un grand merci à Robert qui est notre conducteur principal et qui a un amour de la parole. Et qui diffuse toujours la parole avec beaucoup de passion, qui est habité par cette parole. C'est vraiment une grâce. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'autres ici qui sont amoureux de la parole, hein, je le sais. Mais je tenais vraiment à rendre grâce à Dieu pour Robert, pour Odette, oui. Alors je vous donne la deuxième piste, il me reste quelques minutes, qui découle de cette première piste, trouver du plaisir dans la parole de Dieu. Deuxième piste, avoir une conscience pure, sans reproche, devant Dieu et devant les hommes. On trouve ça dans Actes 24, verset 16. C'est Paul, et Paul parle beaucoup de cette conscience. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Voilà, ça fait partie de l'exercice de l'homme pieux, de la femme pieuse. Je m'efforce d'avoir une conscience pure, sans reproche. Et je peux vous citer plusieurs passages. Romains, Paul, il dit, je dis la vérité, je ne mens pas, ma conscience me rendant témoignage par le Saint-Esprit. Dans 1 Timothée, le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience. Toujours 1 Timothée 1, garde la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. 1 Timothée 3, conservant le mystère de la foi et une conscience pure. 2 Timothée 1, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Et Pierre parle du baptême comme l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. La conscience, c'est comme le voyant dans une voiture. Un voyant, ah, un problème. C'est ce témoin intérieur qui rend témoignage au caractère juste ou injuste de mes motivations et de mes actions. Elle évalue pour excuser ou accuser, pour approuver ou désapprouver. Voilà, c'est ça la conscience. Souvenez-vous, quand il y avait cette femme adultère qui était sur le point d'être lapidée, et Jésus prononce juste une parole. Il dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et il est dit que tous ceux qui avaient une pierre en main, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Alors la conscience se transforme continuellement du fait des influences qui agissent sur elle. Et c'est pourquoi la conscience chrétienne doit se laisser former par la parole de Dieu. Et aussi par la communion fraternelle. N'avons-nous pas, ne sommes-nous pas temple du Saint-Esprit ? Donc nous sommes, comme la parole de Dieu, un agent de l'Esprit de Dieu. Et donc nous avons besoin que notre conscience soit formée, transformée par la parole de Dieu et par la communion, pardon, je vais le rattraper juste à temps, la communion fraternelle. Et j'aimerais souligner le rapport très étroit entre la conscience et notre conduite. Aux anciens d'Éphèse, Paul dira, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit. Aux Corinthiens, il dira, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits. Un Pierre, ayant une bonne conscience, afin que ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ. Et on a lu tout à l'heure dans la définition donnée par la parole vivante Alfred Kuhn, on a entendu, entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui correspond à ta foi. Et on a entendu aussi que dans l'origine du mot, il y a la notion de bien agir. D'accord ? Donc la vraie piété ne sépare jamais la foi de la conduite. Jamais. L'homme pieux, la femme pieuse, veille toujours sur sa conduite. Et quand il médite, et ça c'est vraiment un encouragement que je vous donne, quand vous méditez la parole, posez-vous toujours la question, y a-t-il un décalage entre mes paroles et mes actes ? Y a-t-il un pardon à donner ou à demander ? Y a-t-il quelque chose à changer à ma conduite ? Y a-t-il un manque d'amour dans ma relation avec quelqu'un ? Voilà. Et si à un moment, notre conscience nous met mal à l'aise par rapport à des mauvaises conduites passées, alors on peut apporter ce malaise et cette conscience troublée au pied de la croix. Et c'est Hébreux qui nous dit ceci, « Approchez-vous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. » Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes ? Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien quand on a la conscience lourde et que on a obéi tout de suite à quelque chose que notre conscience a désapprouvé et on a apporté ce pardon ou cette demande de pardon. On est léger. Voilà, tout à fait. Quel bonheur de retrouver, on l'a chanté, notre innocence. C'est incroyable. Retrouver notre innocence. Ah, quel bonheur. L'homme pieux ou la femme pieuse s'empresse donc d'obéir. Cet empressement à confesser, à mettre en pratique, qui n'est pas négligent. Pensez à ce verset où on le trouve trois fois dans un même chapitre dans Hébreux. Si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, Dieu vous parle. Dieu vous met quelque chose à cœur. N'endurcissez pas vos cœurs. Répondez. Quand est-ce la dernière fois que Dieu vous a parlé, vous a dit, tu sais mon enfant, il faudrait peut-être que tu fasses ceci ou cela pour réparer, voilà. Là, on est empressé d'obéir le plus vite possible. Psaume 50, verset 23. À celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite. Alors voyez toute la spirale positive dans laquelle on peut être entraîné en nous exerçant ces deux pistes. Plus nous allons gérer notre temps, libérant du temps pour la parole, en trouvant du plaisir à cette parole, plus nous allons avoir envie d'être habités par cette parole. Et plus nous le serons, plus notre conscience sera éclairée, formée, transformée, pour nous rendre semblables à Jésus. Alors j'arrive à la conclusion. Il n'est pas tout à fait midi. Ben, je veux juste rappeler ce verset de 2 Pierre. Dans la version parole vivante, par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie véritable pour vivre dans l'attachement à Dieu, la piété. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa propre puissance. Je crois que c'est 2 Pierre 1:3, je crois. Ouais. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elle, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participants de la nature divine. Voilà. Donc nous allons nous exercer en cette année 2016, si vous êtes d'accord, à la piété, à l'attachement à Dieu, sans perdre de vue qu'elle nous est donnée. Notre exercice sera donc jamais vain. Et il nous conduira vers une connaissance plus grande de Jésus, nous rendant participants de sa nature divine. Je vous invite à vous lever, puis je vais peut-être prier. D'accord ? Voilà. Voilà, je vous invite à fermer les yeux, puis on va faire cette prière. Vous pouvez le dire avec moi. Seigneur, nous entendons ce matin ton invitation à nous maintenir en bonne forme spirituelle, à nous entraîner à rester attachés à toi, veillant sur nos voies et notre conduite. Voilà, nous te remercions pour le don de ta parole que nous voulons aimer de plus en plus. Seigneur, et vous pouvez vraiment tendre les mains dans un signe d'accueil. Hein? Seigneur, encourage chacun et chacune dans l'Église à trouver du plaisir dans ta parole. Il y a 15 jours, Robert avait reçu cette parole pour nous. Arrose ta terre desséchée. Arrose ta terre desséchée. Alors nous crions à toi et nous disons, nous accueillons avec foi une saison nouvelle où nous allons à nouveau dévorer ta parole, où nous allons passer des moments délicieux avec ta parole. Et ainsi ton Esprit Saint entraînera notre conscience dans un processus de transformation qui nous rendra de plus en plus semblables à toi. Et ainsi, nous serons cet arbre planté près d'un courant d'eau qui, alors que tout est sec autour, peut-être, alors tout sera sec autour, cet arbre aura son feuillage verdoyant et nous rayonnerons de toi. Amen. Amen. Voilà.